travail au Kassai oriental. J'ai réfuté totalement ce qui se
passe. Moi, c'est l'une de l'automatie au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la technique de maîtrise du temps, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de participer à ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. La Société nationale d'électricité, SNEL, affirme avoir fait d'énormes efforts pour améliorer la desserte en électricité à travers le pays dans un rapport sur les indicateurs de performance de l'entreprise. Au 30 juin 2014, la SNEL a réalisé une croissance de près de 2443 MW grâce à l'acquisition et l'installation de nouveaux groupes électrogènes dans plusieurs localités du pays. Les pertes en distribution sont aussi réduites selon le même rapport qui révèle aussi que l'indisponibilité de la ligne Inga-Kinshasa n'est plus significative. Alors comment réagissez-vous par rapport à cette affaire? Rejoignez-nous à l'adresse pa@radiocapi.net ou bien appelez-nous au 081 890 7315 pour votre intervention en direct. Toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie. Paul Badeniam. Badeniam, allez-je dire, est à la technique. Fezagili Bongonda est à la réalisation de ce programme coordonné et présenté par J.R. Lungembo sous la supervision de Léonard Moulamba. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Voilà, nous avons Madame la DGA de la SNEL dans ce studio. Bonjour Madame.
Bonjour.
Voilà, vous avez suivi le sommaire de cette émission. Il y a des efforts que la SNEL mène aujourd'hui pour améliorer la desserte en électricité à travers les pays. Alors, il y a une question comme ça qui nous a été envoyée par un auditeur qui a préféré qu'on vous la pose directement. Qu'est-ce qui a changé, en tout cas à ces jours, dans ce qui concerne la desserte en électricité au niveau de la SNEL?
Merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer sur vos antennes. À cette question, j'aimerais d'abord dire merci aux auditeurs de s'intéresser à notre produit qui est l'électricité. En ce qui concerne le changement qui est intervenu dans le...
Durant cette période, on a remarqué quand même qu'il y a une nette amélioration, en tout cas au niveau soit de la desserte, en ce qui concerne l'acquisition, comme je l'ai dit, et l'installation de nouveaux groupes à travers différentes localités. On a cité quelques localités, notamment Kenge, on peut encore aller plus loin, vers, disons, Ilebo, ou encore, pour ne citer que c'est des villes, il y a quand même des améliorations. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un financement de l'extérieur? Ou, disons, ce sont des efforts que mène naturellement la SNEL, comme toujours dans le cadre de sa mission originale.
Je suis ravie à ce qu'on ait perçu ces changements dans la qualité de la desserte. C'est vrai, c'est dû aux efforts que SNEL est en train de conjuguer, bien sûr, avec les bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds traditionnels. Nous avons par exemple plusieurs projets. Nous avons plusieurs projets qui nous mènent de fonds, depuis la production, transport et distribution que nous sommes en train de mener de fonds pour pouvoir soulager la population.
À ce jour, quelle est la situation de la ligne Inga-Kinshasa?
La situation de la ligne Inga-Kinshasa, il faut dire que la ligne est Inga-Kinshasa et elle est là, mais elle n'a pas de sécurité en magasin. C'est juste la ligne que nous avons depuis Inga jusqu'à Kinshasa. Mais pour le moment, nous avons la deuxième ligne qui est pratiquement à la fin, qui constituera la sécurité N-1 de la ligne Inga-Kinshasa et qui transportera plus d'énergie que nous en transportons actuellement.
Est-ce qu'on peut dire que dans les jours à venir, ces fameux systèmes de délestage pourraient disparaître?
Le fameux, comme vous-même vous l'appelez, le fameux système de délestage. Il faut dire que c'est une combinaison de plusieurs problèmes. Le problème commence depuis la production. Est-ce qu'on produit assez pour couvrir toute la demande? Est-ce qu'on transporte assez pour et couvrir toute la demande? Est-ce que le réseau de distribution est à même de
répondre aux besoins,
de consommateurs? Il ne faut pas oublier que ça fait plusieurs années qu'on n'a pas investi dans la production de l'énergie électrique, c'est-à-dire dans la construction des barrages et des centrales. Mais il se fait que, pour le moment, on s'investit avec l'aide du gouvernement pour pouvoir augmenter d'abord la capacité de production. C'est ainsi que pour le moment on parle de Inga 3 qui viendra d'ici 2020, on parle de Zongo 2 qui viendra...
Mais il y a déjà un débat autour de cette question pour certains observateurs. Inga 3 ne sera pas une panacée, ça ne va pas résoudre les problèmes parce que ça pourrait plutôt renforcer l'exportation de l'énergie.
Pas seulement l'exportation de l'énergie, il y aura aussi une partie qui sera consommée sur place. Et ce n'est pas seulement Inga 3. Il y a Zongo 2, il y a Kakobola, il y a une autre centrale qui sera construite dans les Katanga, Lopula, et il y a aussi la centrale à charbon qui est en train de se
et tous ces projets aujourd'hui pour améliorer la desserte, s'inscrivent sous quelle durée?
Normalement, quand on va arriver en 2016, ça sera le soulagement. Parce que les grands projets tels que SAPV, donc le projet de développement des marchés pour l'Afrique centrale, les PMDE, projet de développement des marchés pour la consommation domestique à l'exportation, les FRIP, fiabilisation et réhabilitation des infrastructures de production et de transport, ainsi que NELSAT et consorts.
Donc la population peut encore espérer
soulager en 2016
totalement. Mais alors, à ce jour, quel est le taux de desserte à travers le pays? Si on peut quand même se faire une idée, parce que petit à petit, on avance vers 2016, il n'y a que 2015 qui reste jusque-là. Donc on peut dire que avant d'arriver à 2016, c'est qu'il y a eu déjà des efforts, mais qui pouvaient, pour nous permettre de nous faire une idée, les taux se situent à quel niveau en termes de pourcentage des taux de desserte à travers le pays?
Normalement, le taux de desserte à travers le pays est très stable, c'est 9%, mais nous avons un chantier, beaucoup de projets.
Par rapport aux années passées,
par rapport aux années
améliorations.
Oui, vous-même vous l'avez dit. Hein, vous-même vous l'avez dit que on a constaté un changement dans la desserte. Donc nous menons de front plusieurs projets qui seront en maturité en 2015 et en 2016. Alors c'est pourquoi que nous disons qu'en 2016, il y aura déjà un soulagement pour nos populations en ce qui concerne la consommation d'énergie électrique.
081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Nous avons le premier auditeur en ligne, Franck, qui nous appelle de Vienne, en Autriche. Bonjour Franck.
Bonjour à madame l'invité, à tous les amis avec qui nous allons.
Voilà, Franck, vous avez envoyé votre message et vous avez dit dans ce message qu'entre un rapport élaboré dans un bureau technique et ce qui se vit actuellement ou réellement par les concernés, donc les populations, il y a souvent des écarts manifestes. Alors, quand vous parlez des écarts manifestes, vous voulez faire allusion à quoi concrètement?
Merci pour la parole. Je crois que je suis suffisamment. Parce que quand nous devons nous référer à ce que les Congolais vivent en cette matière d'énergie électrique, c'est facile de dire que la situation s'améliorerait, mais quand on doit peut-être organiser une enquête dans une ville comme Kinshasa, je crois, je n'habite pas les Congolais, la madame peut dire que c'est de l'étranger, mais au moins, je suis souvent au Congo, je suis avec beaucoup de gens du Congo, donc je ne pense pas que 9 Congolais sur 10 ont témoigné qu'une ville comme Kinshasa est pas desservie dans tous ces quartiers. Donc, quand on est en contact avec les amis de Kinshasa, donc c'est dans au moins 2 à 3 quartiers qui sont pris d'électricité, pas pendant une nuit, mais pas de semaine. Alors, c'est comme ça que moi, je trouve que c'est facile de parler d'un rapport établi dans un bureau technique. Le rapport est là, peut-être de quelques faits, d'un constat, à base d'un échantillon. Mais est-ce que ce rapport avec la réalité quotidienne est concerné? C'est comme ça que moi, je veux dire, le rapport peut être fait, mais ce rapport peut aussi vraiment être en déphase avec ce que nous connaissons en cette matière-là. J'aimerais peut-être que madame nous dise, je prends comme échantillon seulement la ville de Kinshasa, si une ville comme Kinshasa est desservie tous les jours dans tous les quartiers de cité. J'aimerais peut-être qu'on soit plus précis. C'est-à-dire, on a donné un groupe électrogène dans une cité comme Kenge, dans telle cité. Maintenant aussi, je crois qu'on peut poser la question aux mêmes habitants de Kenge, ils sont desservis pendant combien de temps? C'est pendant combien de temps qu'ils ont accès à cette énergie? Si c'est seulement de 18h à 21h, je crois que pas encore ce qu'on attendrait d'un État qui se dit moderne en cette matière.
Voilà, alors, mais Franck, vous avez, en fait, c'est par rapport au constat que vous avez fait, mais il est clair aujourd'hui, par rapport à ce que nous avons lu dans ces rapports, que l'indisponibilité de la ligne Inga à Kinshasa n'est plus très significative, comme pour dire que petit à petit, on est en train de tendre vers l'amélioration de cette desserte.
Oui, monsieur le journaliste. Je concède à ce que vous dites. Je reviens encore sur ma thèse du départ. Le rapport peut donner la note d'excellence à une situation, mais sur place, la note d'excellence n'est pas conforme à la réalité quotidienne. Moi, je trouve que le rapport est fait peut-être pour les années à venir, où on commence déjà, mais moi, j'ai dit, je prends comme champion la ville de Kinshasa. Essayez un peu de demander 10 Kinois, Masina Kingasa Njili, qui habite vers Selembao, qui habitent dans certains quartiers là-bas, Kinsuka, demandez-leur, ils ont vraiment accès au courant tous les jours, 7 sur 7 de la semaine. C'est
voilà. Alors parce que
réponse qu'on dirait oui. Qui a suffisamment amélioré.
Voilà, parce que vous parlez de cas de Kinshasa, il y a un auditeur qui nous a écrit de Kinshasa qui dit ceci, les habitants de Kingabwa à Limété se plaignent de plus en plus du manque de courant accru depuis près de 2 ans et cela favorise le vol quasi quotidien des câbles. Donc plus vous coupez les courants, plus les habitants se retrouvent sans câbles qui alimentent leurs habitations. Donc ça profite réellement aux incivils pour pouvoir voler les câbles, madame. Voilà, merci beaucoup, Franck, d'avoir appelé des Vienne en Autriche. On va prendre Maurice qui est à Kinshasa. Maurice, bonjour.
Bonjour, Jérôme Gembo. Bonjour aussi à votre invité.
Vous avez la parole. Votre point de vue, Maurice.
Moi, je pense qu'il faut savoir relativiser ce que je viens d'apprendre, qu'il y a une nette desserte, plutôt amélioration dans la desserte de l'énergie électrique. Je suis un peu.
Oui, mais oui, Maurice, avoir 9%. Contrairement aux années passées, je crois que n'est-ce pas là une nette amélioration.
Bon, en fait, vous savez, les discours, comme Franck l'a dit, les discours vraiment différents de ce que nous pouvons constater sur le plan pratique. Hein? Un rapport comme ces discours-là est comparable à ce que nous entendons souvent, la maîtrise du cadre macroéconomique, maîtrise des taux d'échange, mais en réalité, les retombées. Même leur chef critique ce qu'on dit par des discours et...
Voilà, vous parlez de quelle retombée? C'est-à-dire vous voulez que les Congolais aient le courant chez lui?
Tout à fait, parce que Franck, même qui vit de loin, qui est à plus de 8000 km d'ici, nous a quand même retracé une réalité vraiment très, très
problématique. Et vous, personnellement, qu'est-ce que vous avez constaté à Kinshasa, par exemple, là où vous êtes?
Bon, je vais aller par des exemples. Vous allez prendre, par exemple, vous allez à Massina. Vous partez au niveau des quartiers 3. Vous descendez au niveau de Mpasa, les quartiers Mpasa. Ils ont fait plus de 3 mois. Ils n'ont pas vu le courant, l'électricité dans leur maison. Hein? Là, le câble a été déterré. Hein? Prétextant qu'il fallait faire réhabiliter les boulevards Lumumba. Et on a déterré le câble. Et jusqu'à aujourd'hui, ces gens-là sont dans les noirs. Vous comprenez? Même ça, ce sont des exemples, en fait, isolés. Hein? La SNEL doit nous donner un état de lieu sérieux. C'est pas qu'on nous dise que non, c'est amélioré pendant que nous voyons ce qui est déclaré et aux antipodes de ce que nous vivons, nous qui sommes sur terrain. Hein. Et je voudrais que madame nous dise aussi pourquoi il y a problème au niveau de la production, pourquoi il y a problème au niveau des transports, parce qu'elle a reconnu que non, nous ne produisons pas assez, nous ne transportons pas assez. Pourquoi? Et nous devons aussi reconnaître quand même il y a quelques efforts, parce que je ne dis pas que non, il y a que du noir, tout ce que je vois, il y a quand même quelques efforts qui sont fournis depuis l'arrivée de M. Eric Mbal à la tête de cette institution publique. Mais les problèmes qui se posent, parce que en fait, madame qui est là, elle peut reconnaître ça, mais elle aura du mal à les dire. Les problèmes, l'obstacle dans tout ce que les gens de bonne volonté qui peuvent faire du bon travail et donner des bons résultats, l'obstacle c'est l'État congolais. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est lui qui ne paye pas de dettes. Hein? Est-ce que madame peut nous dire en toute vérité ce que l'État congolais doit à la semaine? C'est des millions, des centaines de millions de dollars américains.
Voilà, pour votre information, Maurice, aujourd'hui, en tout cas par rapport à ce que nous avons comme information, les taux de recouvrement global avec arriéré est de 67,56%. Je crois que madame pourrait nous éclairer là-dessus. Et l'État a fait quand même beaucoup d'efforts, hein, parce que comme le rapport le dit, les taux de recouvrement des factures État est nul pendant la période, car aucun paiement de l'État n'a été effectué dans la période. Mais bon, je crois que tous les détails seront fournis par madame la DGA. Alors Maurice, je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à ajouter.
Oui, je voudrais aussi poser, madame, une question sur le barrage des Kakobo, là. Et pendant la période électorale, nous avions vu l'oligarchie défendre et promettre que on devait avoir le courant en fin 2013. Maintenant, on est fin 2014, depuis environ, il n'y a toujours pas d'électricité. Qu'on nous dise où en sommes-nous avec ce projet.
Merci beaucoup, Maurice, d'avoir appelé de Kinshasa. On reste toujours dans la même ville, province de Kinshasa. Docteur Richard, bonjour.
Bonjour, J.R. Bonjour à madame aussi. Je félicite la SNEF pour son rapport d'activité propice à la presse. Par rapport au terrain, bon, c'est un rapport qui ne dit pas la vérité. Pourquoi? Parce que d'abord, beaucoup de cabines sont laissées à la gestion des journaliers. Nous savons ce qu'ils font là-dedans. Deuxièmement, le courant est toujours rare. Troisièmement, je me demande pourquoi on nous projette le bonheur électrique en 2030 plutôt. Avec un taux de couverture de 9%. Moi, je voudrais que madame puisse nous parler en 60, c'était comment, et comparer ce taux de 60 à aujourd'hui. Est-ce que nous avons progressé ou régressé?
Et vous, de cette génération, docteur Richard, oui. Vous pouvez peut-être nous brosser rapidement, en tout cas sur le plan historique, ce que vous connaissez, le constat que vous avez fait depuis l'époque coloniale jusqu'à ces jours.
Oui, mais à l'époque coloniale, parce que moi, je suis de l'époque coloniale, en 60, j'avais, je crois, 4 ans, je suis allé à l'école, il n'y avait pas de coupure de courant. On avait le courant 24 heures sur 24. Et je me souviens encore, électrique.
Il n'y avait pas une forte densité, la population.
J'ai posé les factures par rapport à ce qui a été consommé au prorata des kilowattheures indiqués au compteur. Ce n'était pas le forfait. Voilà. Alors, j'ai aussi en souvenir, les gens venaient tenter des meilleurs coups quand il y avait de ruptures non agréables. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Hmm? Aujourd'hui, ça peut se couper 3-4 jours et puis
aucune
personne ne vous présente de meilleurs coups. On vous brandit une facture. Vous réclamez le compteur, on vous menace de venir tout déterrer, alors on se demande, le bonheur national électrique viendra quand?
En 2016, madame l'a dit, docteur Richard.
2016, c'est électoraliste,
oui.
Ou technique. C'est ça le problème. Parce que dans tout ce qu'on dit là, où est parti le plan de Dell commune? De faire des micro-barrages au niveau des cours d'eau de la République avec les recettes locales, c'est-à-dire le Bandundu, par exemple, avec son argent, fait le barrage, le Kassai occidental, avec son argent, fait le barrage, et c'est ça la décentralisation aussi. C'est ça le problème. Promesse électoraliste, oui, mais promesse technique pour faire la couverture acceptable et développer le Congolais, j'ai des doutes. Moi, je souhaite aussi qu'on fasse parler le peuple, le micro, trottoir. Comme ça, on aura la vérité.
Mais déjà, ce que nous faisons là, c'est une forme de sensibilisation aussi, ou d'apporter quelques éclairages auprès de la population, docteur Richard.
Mais justement, félicitations, je vous félicite, parce que si c'était une autre radio, je crois qu'on vous aurait censuré. Je félicite la radio qui a pu pour ça.
Merci.
Une autre radio ne peut pas faire ça.
Merci beaucoup, docteur Richard. 081-890-6315 pour votre intervention en direct, et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook.
Parole aux auditeurs.
Merci encore de votre fidélité à Radio Capi. Si vous êtes arrivé, notez que vous suivez bien l'émission Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Madame Hortense, vous êtes la DGA de la SNEL. Vous avez suivi cette première série des auditeurs. Comment vous réagissez?
Ah, merci beaucoup. Je salue d'abord l'honnêteté intellectuelle de M. Franck. Hein?
Oui, Franck Emboli de Vienne.
Non, de M. Maurice.
Maurice Kinshasa.
En tout cas, il a perçu, il a remercié et il a reconnu que nous avons fait des efforts. Ça c'est bien, mais toutefois est-il que nous n'avons pas encore
atteint le successif en régie, donc
vraiment
total.
Alors, si je peux répondre à monsieur au docteur Richard, qui a demandé à ce que je puisse quand même lui faire une sorte de chronologie des faits pour la production et la population, faire ce lien-là.
Mmh.
En 1960, le pays comptait 600 MW installés. En 1972, on a compté 950, donc quand on a construit Inga 1. En 1982, le pays comptera 2400 MW installés. Pour quelle population? À Kinshasa, à ce moment-là, donc en 1960, c'est à peu près 200 habitants. Mais aujourd'hui, je pense qu'on compte 15 millions d'habitants à Kinshasa.
Une forte densité. L'expansion démographique.
Tout ça. Mais l'investissement n'a pas suivi pendant combien d'années? Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, on compte seulement Inga 1 et Inga 2. Et au moment où je vous parle, il y a une bonne partie, donc la moitié pratiquement de notre part de production est à l'arrêt, suite à la vétusté, suite au vandalisme même de la même population. C'est la question que Maurice a fait.
Mais madame, ce discours ne date pas d'aujourd'hui.
Oui, il ne date pas d'aujourd'hui.
Plusieurs comités de gestion qui se sont succédés ont, en tout cas, a eu le même discours. Vétusté de l'utilité des productions, vétusté des réseaux. Alors, que faut-il faire?
Quelle
est la solution idéale?
C'est la raison pour laquelle nous avons d'abord attaqué par réhabiliter l'existant. C'est-à-dire, tous les mégawatts là qui dorment, il faudrait qu'on le remette sur le réseau, et c'est comme ça qu'on a expliqué les différents projets que nous maintenons de front, que ce soit sur le plan de la production, que ce soit sur le plan des transports, que ce soit sur le plan de la distribution, avec nos bailleurs de fonds. Il y a la Banque mondiale, KfW, il y a BAD, il y a BI et consorts, et puis sur le fonds propre aussi. C'est la raison pour laquelle nous promettons qu'en 2016, dès que tous ces projets seront en maturité, il y aura quand même une nette amélioration dans la consommation de l'énergie électrique.
Voilà, il y a le docteur Richard qui a évoqué...
Oui, le docteur Richard qui a parlé de
l'expérience du passé.
De l'expérience du passé, il n'y a pas de commune mesure.
En
ce moment-là, il y avait 600 MW installés, avec 200 000 habitants. Et aujourd'hui, quand on regarde la ville de Kinshasa, elle fait le lien entre la province de Bandundu et la province du Bas-Congo et avec une population à peu près de 15 millions de vues. Maurice a parlé du vandalisme. J'aimerais encore mettre vraiment l'accent là-dessus. La recrudescence du vandalisme, c'est ce qui fait qu'on détériore toujours la qualité de la denrée rare, l'électricité. Quand on vole le câble, quand on vole le cornière et le pylône tombe, comment voulez-vous être alimenté? Et la population ne voit pas ça. La population dit seulement que moi je ne suis pas alimenté en énergie électrique, alors qu'on vient de voler les câbles. Il ne passe pas un seul jour qu'on ne vole pas le câble ni les cornières. Il n'y a pas deux ou trois jours dans les Katanga, il y a un pylône encore qui est tombé. Quand un pylône tombe comme ça, il entraîne aussi les autres, ce qui fait que les travaux demandent une grande durée et beaucoup d'argent pour pouvoir réhabiliter la situation. Et
Maurice voulait avoir aussi quelques éclairages sur le projet Kakobola, parce qu'aujourd'hui, tout le monde attend les cheveux. Nous avons vu les députés de Bandundu, en synergie, demander qu'on puisse créer une autre ligne, en tout cas par rapport à la lanterne, à tous ces projets, et voulait à tout prix, parce qu'il continue à réclamer que Kikwit n'a pas de courant, qu'il n'y ait non plus, et pratiquement plusieurs localités de Bandundu. Les députés, en tout cas, ont mené une action, ils ont fait des plaidoyers par rapport à cette question. Mais si vous pouvez nous éclairer là-dessus sur le projet,
Et je suis vraiment ravie à ce qu'il ait vraiment épinglé ce projet. C'est pour dire que nous sommes en train de travailler d'abord sur la production, parce qu'on ne peut pas transporter et distribuer si on n'a pas encore produit. C'est ainsi qu'il y a Kakobola qui est en train d'être construit. Et c'est un projet qui, pour le moment, est encore entre les mains du gouvernement. C'est le ministère des ressources
hydrauliques.
Mais il y a toujours des experts de la CNEL, parce que l'expertise, c'est à la CNEL, qui sont en train de jeter un coup d'œil. Il ne faut jamais oublier, j'ai fait encore le lien avec le tout premier auditeur, là, qui est à Vienne, là.
Oui,
Franck, quand il a parlé des rapports techniques, on parle toujours des études, et puis par après, on évalue, au fur et à mesure que le projet avance, on évalue et on rectifie les tirs. Il y a eu des glissements, c'est vrai, il y a eu des glissements, mais nous sommes en train de corriger, d'avancer.
Voilà, madame, si vous permettez, on va repasser de l'autre côté des standards avec Daniel qui est à Lubumbashi, Junior KBA à Mbujimayi, et Gérard Koedi à Lubumbashi également. Daniel, vous êtes avec nous, bonjour Daniel. Daniel, vous êtes avec nous? Voilà, le temps que la ligne de Daniel s'améliore, on va prendre Junior Kabeya qui est à Mbujimayi.
Là, c'est pas la ligne électrique, hein?
Non.
Là, c'est pas grave.
Junior Kabeya, vous êtes avec nous. Bonjour, Junior.
Bonjour, monsieur Perrault.
C'est plutôt Junior qui est à l'antenne. Junior, vous êtes avec nous. Quel est votre point de vue?
Bon, pour moi, je constate que c'est depuis que la FNL a amélioré ses équipements jusqu'à là. Ils disent que c'était au mois de juin 2014. Mais jusqu'alors, nous sommes en train de subir un problème ici à Mbujimayi. Il n'y a pas de courant, il y a vraiment carence de courant. Et c'est de l'eau. Nous vivons vraiment d'une manière là, invivable, je peux dire ça. En tout cas, il faut qu'ils améliorent. Comme ils ont émis cette idée-là, il faut qu'ils améliorent. Nous encourageons vraiment ça.
Merci beaucoup, Daniel. Pardon, Junior Kabeya de Mbujimayi. Ingénieur Koedi, vous êtes avec nous?
Oui, je suis en ligne, monsieur Gérard.
Vous avez la parole.
Oui, je remercie d'abord tous les collègues ingénieurs qui se battent jour et nuit pour l'amélioration et la. La
météorologie
de bon
travail.
Voilà. C'est surtout qu'ils sont vraiment au jour et nuit sur place. Moi, j'ai eu cette expérience. Et je suis de ce coin-là, je connais bien les difficultés et non les avantages qu'il y a sur le membre du comité de gestion qu'on nous amène chaque fois avec des discours un peu pas mal. Excusez-moi pour les termes. Mais moi, je pense que ce que madame a dit, je peux dire quelque chose que c'est juste une goutte d'eau dans un verre. Mais bon, c'est à féliciter. Mais il faudrait peut-être chercher encore à donner des moyens possibles pour que ce matériel qui date de 1960 jusqu'à aujourd'hui soit prise en charge, prise en compte, soit renouvelée peut-être 10 ans après 5 ans après. Parce que chaque machine, chaque outil électrique a une durée de vie claire et nette. Il y a des, je crois que madame ne va pas me contredire pour ça. Et il faut prendre conscience de ça pour essayer un peu de doter les moyens nécessaires aux techniciens qui sont sur place pour qu'ils nous fassent leur action nette. Avec le barrage que nous avons au Congo, je ne pense pas que nous devons encore compter sur Inga 3. Rien que ça, si le gouvernement a cette volonté de doter les moyens conséquents, je crois que le peuple congolais aura du courant et n'auront plus à se plaindre. Et je ne suis pas d'accord avec madame quand elle nous promet que d'ici 2016, il y aura quand même une nette amélioration. Moi, étant que technicien praticien, je peux dire et confirmer que c'est peut-être au plus tard 2020 qu'il y aura une nette amélioration dans le secteur énergétique dans ce pays. Ouais.
Voilà, vous parlez, vous parlez,
il y a vraiment un problème clé par rapport à la justicité de matériel.
Et Ingénieur Cody, quand vous dites vous projetez pour 2020, vous basez sur quel indicateur?
Il faut voir le temps que ça va prendre pour changer le matériel. Il y a de ces matériels qu'il faut changer et il y a de ces matériels qu'il faut réparer. Ouais, ça prend du temps. Est-ce que là, c'est preuve pour nous dire que telle turbine ou telle chose que nous allons changer par rapport à ce temps, ça va, si on a les moyens? On n'a pas encore les moyens. Il y a un manque de volonté politique. Comment il doit nous déterminer que maintenant, là, on a eu le moyen, on a le
partenaire.
J'ai été, excusez-moi, je vais vous donner un exemple.
J'ai été
un dilo. Moi, j'ai fait le forage avec le projet Dilo D. J'ai passé le bus tout au long du fleuve au Congo, et ici à Lualaba. On a fait les études pressionométriques, que peut-être madame ne connaît pas. C'est un outil avec mon comité de gestion qu'on amène à l'ESNEL, c'est quoi? Je ne travaille plus à l'ESNEL. C'est qu'on n'amène pas les techniciens, les gens qui ont été formés, qui ont appris l'électricité de type secondaire.
Oui.
C'est ça le mal.
Oui.
On a des mandataires qui ne maîtrisent pas vraiment la chose.
Ingénieur Cody, là, on se retrouve vraiment autour d'un débat très technique. On aimerait bien ramener quand même le débat au niveau des commerces des mortels. Aujourd'hui, c'est vrai, par rapport aux informations que nous avons, la puissance disponible est passée à plus de 1547 avec 12 mégawatts, contrairement aux années passées. Alors, vous, personnellement, avant de quitter la SNEL, vous avez laissé la situation à quel niveau?
Non, je n'ai pas dit que j'ai travaillé à l'ESNEL. Ouais. Je maîtrise bien le secteur parce que je suis technicien.
Okay.
J'ai appris, je suis
alors,
passé.
Alors, selon vos informations.
La zone, c'est une ville partie par là. Je connais un peu l'histoire de ce pays.
Est-ce que vous avez une idée
sur ce qui se passe? Je vais vous donner un exemple.
Oui.
Aujourd'hui, si le peuple souffre, c'est parce que nous avons des entreprises minières par exemple sur le cas du Katanga.
Et ça, c'est le cas du Katanga.
Par exemple, les 60 mégawatts.
Oui. Okay.
Et combien on dispose à la population congolaise? Combien de mégawatts on dispose aux entreprises minières? Mais s'il y a des déficits pour les entreprises minières, qui vont partir, n'est-ce pas le peuple congolais?
Oui, ben,
alors, on va me contredire.
Ben, alors, vous, en tant qu'ingénieur, quelles sont les informations que vous avez par rapport
là,
à la puissance?
Je vais vous
la puissance,
je vais vous conseiller. Votre question, s'il vous plaît.
Je disais, vous, en tant qu'ingénieur, en tant que technicien, est-ce que vous pouvez nous faire une idée sur les informations en votre possession autour de la puissance disponible aujourd'hui dans la production de la SNEL?
Je voudrais s'attendre, s'il vous plaît, si vous pouvez répondre.
Est-ce que vous avez une idée sur la production de la SNEL à ce jour?
Quelle idée que j'ai sur la production à ce jour de la SNEL?
Oui.
Le problème, c'est quoi? Aujourd'hui, je ne maîtrise pas actuellement.
Voilà,
je n'ai pas...
Merci beaucoup. Merci, ingénieur Cody. Donc, on va évoluer. On va accorder quand même la parole à d'autres auditeurs. Ingénieur Steve, vous êtes à Béni. Bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de la radio.
Votre point de vue, ingénieur Steve.
Oui, en fait, c'est vraiment intéressant qu'on a suivi ces rapports, mais ce que nous regrettons, c'est que ces rapports ne sont pas décès parce que si vous voyez toute la région de l'Est, c'est-à-dire Béni, Goma, Bukavu, ce sont des régions qui ne sont pas toujours d'électricité. Et ce qui m'étonne aussi, c'est dans le sens où, dans les rapports, on se félicite d'avoir octroyé des groupes électrogènes, alors que, on a expérience avec des groupes électrogènes qu'on avait distribués à Béni, Boutembo, même dans des ruralités. Ces groupes-là n'ont pas même deux mois de fonctionnement.
Oui, ingénieur, parce que vous êtes à Béni, selon nos informations, Béni a bénéficié également de ces groupes électrogènes au 30 juin 2014, comme des villes, des localités telles que Boutembo, Oisha, Isiro, Mweka, Kenge, Gungu, Idiopa, Dikoro, Mbandaka et Ankoro. Est-ce que vous pouvez nous confirmer dans quel état se trouvent aujourd'hui ces groupes électrogènes?
Non, c'est vous que je suis la société ne sait même pas de son importance, il n'y a pas, il n'y a rien qui se passe ici, Béni est électrifié, ce n'est pas des groupes privés qui sont alimentés, Béni, ce n'est pas l'Estel d'Estel, ce n'est pas vraiment des communes ici à Béni, on ne connaît pas ce bureau d'Estel à Béni, donc c'est vraiment... c'est faux, donc il n'y a pas vraiment un bac plein de filles avec ça. Mais une question que je voulais poser à l'invité, c'est, par exemple, nous ne comprenons pas, nous les gens de l'Est, le fait que si le barrage de Rouville, Goma n'a pas de courant, alors que le Rwanda a du temps 24/24, alors qu'on tous partagent le même barrage de Rouville. Alors comment expliquer tout ça? Donc c'est le problème de RDC, c'est le problème de.
Voilà, donc là vous rejoignez l'idée de Dr Richard qui parlait du projet d'Elcomin, le projet qui consistait donc à installer des centrales électriques à travers le pays pour pallier en tout cas à cette déficit de production au niveau de la SNEL, au niveau des barrages d'Inga. Merci beaucoup, ingénieur Steve. On va terminer avec Dieu merci. Avant de revenir à vous, madame, la DGA de la SNEL, Dieu merci, vous êtes à Manono, Katanga, bonjour.
Bonjour, Gérard. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Katanga.
Votre point de vue, Dieu merci.
Oui, mon point de vue, c'est demander à l'invité de nous expliquer en quoi vraiment elle veut nous parler de l'amélioration. Aussi longtemps ici chez nous, à Manono, j'étais vous dire, pas seulement à Manono, c'est dans beaucoup de territoires. Il y a beaucoup de groupes électrogènes qui sont installés là-bas, mais qui laissent seulement des poteaux. Il n'y a pas de d'énergie. Moi, j'ai aussi une autre préoccupation, c'est par rapport au projet du barrage interne à Mwanga. Si l'invité était nous parler un peu à ça, parce que nous avons constaté qu'il y a toujours des invitations, des visites, on visite ce barrage qui se situe au moins à 90 km. C'est un barrage qui a alimenté presque toute la cité de Manono. Et bien, on se pose des questions. Jusque-là, il y a un silence depuis que ce barrage a été détruit pendant la guerre d'agression. Mais jusque-là, il y a un silence, il n'y a même pas vraiment d'écho. C'est pourquoi nous voulons un peu avoir des situations claires. S'il peut, la dame invitée là, et nous expliquer, nous dire, il faut apprendre ce sujet. Nous sommes à quelle étape, nous sommes à tel niveau. Ça, c'est aussi ma deuxième préoccupation. Et surtout, des groupes qu'on installe partout ici, mais qui ne donnent pas, le courant dans les cités. Comme la cité de Manono, il y a la cité de Malemba, on a trouvé ça. Et ensuite, j'étais à Calumi dernièrement, vous trouvez, il y a vraiment de l'étage à tous les temps. On se pose des questions, c'est quoi avec SNEL? Mais c'est pourquoi j'ai posé la question de savoir en quoi elle veut nous parler de l'amélioration.
Pour vous, l'amélioration de la DSR, c'est pratiquement utopique. Nous allons voir ça avec notre invité 081-800-93-75 pour votre intervention directe.
Parole aux auditeurs.
Merci à vous tous qui nous avez envoyé vos messages. Il y a Gaylor, Max 5, qui dit « La meilleure solution serait de privatiser ce secteur. Je suis en Gili au quartier 1. Nous sommes approvisionnés en électricité que 15 jours sur le mois en raison du délestage. Mais curieusement, on est facturé pour 30 jours, ce qui est regrettable. Le mois passé, j'ai reçu une facture avec une dette dans la rubrique « Autres factures » d'une facture de mois de mars de l'année en cours, déjà payée, non repris en avril, mais juin. » juillet, août, mai, en septembre, octobre, comment justifiez-vous ça? C'est une erreur ou du vol? Voilà. Madame Hortense, vous avez suivi cette longue série de auditeurs, la deuxième série de auditeurs, comment vous réagissez d'abord?
Merci beaucoup. Je commence d'abord par Dieu merci, c'est à Manono. Ça, c'est une question très facile. Pianamwanga, c'est une centrale qui ne nous appartient pas. Comment voulez-vous qu'il y ait intervenu dans la maison de lui? Alors, ils n'ont qu'à faire le nécessaire à ce que Pianamwanga nous revienne à la SNEL et nous avons déjà fait toutes les études, il y a moyen de remettre Pianamwanga sur pied. En ce qui concerne Gaylor qui cherche à privatiser la SNEL, je ne trouve pas que ce soit une solution vraiment idoine. en ce sens qu'il se plaint de la facturation. C'est vrai, dans la facturation, il y a trois éléments que je peux épingler comme ça. Il y a d'abord les tarifs lui-même, qui est administré, qui ne couvre même pas le prix de revient de l'électricité pour l'approvisionner en 10 lits. Et le deuxième point, il y a le décalage dans les cycles commerciaux. Parfois, ils oublient, il a déjà consommé au mois de janvier, et quand la facture arrive au mois de mars, il oublie qu'il était bien desservi au mois de janvier, et il ne se souvient que du facteur jeune qui est présent. Et le troisième point, c'est le facteur jeune. Dans notre facturation, nous tenons compte du facteur jeune. D'ailleurs, pour le moment, on va même impliquer les chefs de quartier pour pouvoir nous aider à déterminer effectivement le nombre de jours du facteur jeune pour l'inclure dans la facture. En ce qui concerne...
Dieu merci de Manon,
j'ai déjà répondu, lui il a parlé d'un piano manque, donc je ne peux pas intervenir dans la maison de quelqu'un. J'interviens sur les centrales qui nous appartiennent, c'est pourquoi j'ai dit que nous attaquons d'abord l'existant. Nous essayons un peu de réveiller tous ces mégawatts-là qui sont en train de dormir. Je vais lui donner un exemple concret, c'est l'exemple des Kiloubi. Kiloubi, ce n'est pas notre centrale, c'est la centrale qui appartient à l'armée. Mais il y a un contrat qui existe en bonne et due forme, demandant à la SNEL de gérer ça. Et c'est comme ça que nous gérons pour le moment. Kiloubi est en train de tourner avec des moyens de bord.
Mais certains observateurs ont dû révéler cette situation de la ligne Inga Kolwezi, qui avait connu quand même une certaine indisponibilité.
Oui,
on peut avoir une idée.
Inga Kolwezi connaît
un problème de conversion.
L'indisponibilité qui est due à plusieurs problèmes.
On a parlé des incidents qui font survenir au niveau de la conversion, est-ce que c'est ça?
Oui, il y a les convertisseurs qui posent problème. Il y a déjà ABB qui travaille là-dessus avec une entreprise sud-africaine. Et pour le moment, il y a même une commande en bonne et due forme que nous avons déjà passée. Et à partir de l'année prochaine, on va déjà commencer à réceptionner les différentes parties de cet équipement.
Voilà.
Mais il y a aussi un autre problème qui se pose. Vous savez que Inga Kolwezi, c'est la ligne la plus longue, à peu près 1700
kilomètres
de Inga à Kolwezi. Ça traverse à peu près 4 provinces. Le Bas-Congo lui-même, les deux Kasaï et le Katanga. Mais qu'est-ce que nous ne connaissons pas sur ces lignes-là? La recrudescence du vandalisme, en tout cas, réduit sensiblement la qualité de la desserte. Parce que quand un pylône tombe, il y a coupure, on ne sait pas. Et le consommateur, lui, ne voit que chez lui qu'il n'y a pas coupure. Il ne sait pas remonter en amont pour dire que, oui, les causes, ça vient de quoi. On a parlé de la communication. J'espère que nous communiquons, nous allons aussi intensifier la communication parce que nous savons que l'information.
Au niveau de la RTNC le soir, bon, des fois, vous savez, il y a un phénomène actuellement, les gens sont branchés sur des chaînes câblées avec le décodeur et tout. Parfois, ils ne suivent pas, ils ratent aussi l'info, mais moi, je sais que de temps en temps, il y a les communiqués de la RTNC qui passent quand même sur. Même nous, à Radio Capi, même si nous ne diffusons pas les annonces, mais il y a quand même des communiqués qui arrivent pour annoncer quand même telle coupure ou telle disponibilité de telle ou telle autre ligne pour travaux. Voilà. Donc,
j'aimerais aussi un peu répondre et ne plus que donner une suite de la réponse à la question de l'ingénieur Kouidi.
Oui,
qui a commencé d'abord par reconnaître toutes les difficultés et par après qui a dit que c'est une goutte d'eau et tout ça. Mais on va lui donner l'exemple d'un nid d'oiseau. Le nid d'oiseau ne se fait pas en un jour et ça s'est construit brindille par brindille. C'est comme ça que nous, notre comité, nous sommes dit, nous commençons d'abord par l'existant. on réhabilite l'existant avec tous les projets que j'ai cités au début. Et puis, nous allons aussi dans les travaux de modernisation et de construction, en commençant par la production, le transport et la distribution. Il a parlé des durées de vie, c'est vrai. J'ai parlé de la... j'ai parlé de la vétusté des équipements. Les équipements que nous exploitons aujourd'hui, il y a de ces équipements-là qui datent de 1954, vous n'étiez pas encore nés, que nous exploitons, mais nous avons un plan pour le remplacer. On a vu par exemple à Kinshasa, nous avons remplacé beaucoup de transports qui datait d'avant l'indépendance. Nous sommes en train de renforcer et d'assainir aussi les différents réseaux
de transport à peine installés, à peine grillés.
Oui,
il
y a toujours des aléas de la technique. La technique a ses caprices. Ça arrive. Mais nous sommes là pour pouvoir remplacer, pour pouvoir réparer, réhabiliter, pour que
les réseaux lui-même, il est très vétuste, hein, les câbles notamment, s'il faut vraiment évoquer les câbles aujourd'hui, à travers, si nous prenons les cas juste de la ville province de Kinshasa, c'est déjà un problème. Lubumbashi, n'en parlons pas, et
oui, nous allons continuer. Pourquoi je remercie un auditeur qui a parlé de moyens. De moyens matériels. C'est vrai, c'est pourquoi je lance un appel libre à tous nos abonnés à ce qu'ils puissent nous payer les tarifs pleins et dans les délais réglementaires. Et
ça donnera le moyen.
Oui, ça peut nous donner le moyen pour pouvoir améliorer. Donc, nous demandons seulement à nos abonnés de nous aider à les aider, c'est-à-dire voilà. D'améliorer
alors, madame, c'est sur les curiosités. Si aujourd'hui l'option d'enlever le monopole de la production, de la distribution et aussi des transports à la SNEL pour en fait privatiser, est-ce que la SNEL saura faire face à tout cela si jamais on laissait par exemple à la SNEL uniquement la production? Parce que c'est parmi les solutions qui sont proposées.
Je veux revenir plutôt à la loi qui a été promulguée le 17 juin de cette même année sur l'électricité. Le secteur est ouvert à tout le monde. C'est lui qui se sent fort, qui a les moyens, qui vient, il va travailler et dans la production et il va transporter.
Est-ce que la SNEL sera faire face à cette concurrence?
Nous sommes les premiers sur le terrain. Nous avons toutes les perspectives. Nous allons faire. Ce que nous demandons sont les moyens que chacun là où il est, qui nous paye sa facture. Il y a un ingénieur Steve là, qui a parlé de l'État, si l'État nous paye ou ne nous paye pas. Je ne peux pas gérer un client comme l'État en public comme ça. Je ne saurais pas. Que ce soit quel client, parce que chez nous, l'une de nos valeurs, le client est roi, je ne peux pas parler d'un client comme ça à la radio. Mais j'appelle seulement à tout le monde, tous qui sont abonnés SNEL qui viennent nous payer nos factures et dans les temps.
Selon les informations que nous avons, nous ne savons pas comment vous allez réagir, madame, que le taux de recouvrement des factures de l'État est nul pendant la période du 30 juin jusqu'à aujourd'hui, car aucun paiement de l'État n'a été effectué dans la période. Ainsi, les arriérés réqualifiés après application du décret 012/31 octobre 2012, relatif à la prise en charge des passifs non assurables, se sont élevés à 73 millions de dollars américains. C'est le manque à gagner pour la SNEL, hein, j'imagine.
Je reviens encore sur ce que j'ai dit.
C'est vraiment
le client est roi. Je ne peux pas faire une gestion publique des clients.
Alors, si gros comme l'État.
Voilà. Quel que soit, il n'a pas de petits clients. Voilà. Même celui qui consomme 0,03 MW, c'est un client. Je ne peux pas faire une gestion publique.
Merci beaucoup. Willy est à Kinshasa, Dieu donné à Isiro, Gabriel à Goma. Willy, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour.
Voilà, vous avez droit à une minute, Willy, rapidement, parce qu'on a plus assez de temps. Quel est votre point de vue?
Pour vous dire ceci, hein.
Oui.
L'invité, je suis au regret d'entendre encore ce même discours à l'invité du jour. Ça fait presque 10 ans, depuis 2006, le comité Yengo et Tokaourou nous avaient tenu ce même discours. aujourd'hui, ce comité de au Parlement ici.
Madame Hortense Moukalaïs, je crois que
c'est... Le pays est géré depuis 97 quand même. La vétusticité de matériel, pourquoi pas ne pas changer de matériel? Moi, je me rappelle bien, le Ghana, ici, en 2012, fêtait les 10 ans de non-coupure de courant, même pas une seconde. Ils ont fêté les 10 ans. Pourquoi au Congo? À Kinshasa, actuellement, je suis à la maison chez moi, il n'y a même pas du courant, ça fait une semaine. On nous amène encore en 2016. Quand on était en 2011, on nous a dit, en 2014, il y aura amélioration. Aujourd'hui, on arrive en 2014, on nous amène en 2016. On dit, la parole d'un chef est sacrée. Quand vous ne savez pas répercuter le désir du chef, est-ce que vous êtes loyal? Et si le chef ne vous donne pas le moyen de sa politique, pourquoi pas ne pas démissionner?
Voilà, mais je crois que si ce sera ça l'option, oui, je crois que tout le monde choisirait cette option pour selon la pensée des uns et des autres, parce que les communes n'auraient pas fait rien des masses, malgré les efforts qui sont effectués par les autorités de la CNEL et tant d'autres dans les pays. Merci beaucoup, Willy. Dieudonné, vous êtes à Issiro. Bonjour.
J'interviens dans le débat pour donner un petit point de vue par rapport à la situation des Issiro et puis.
Oui, rapidement. Alors, quelle est la situation à Issiro?
Voilà. À Issiro, lors de la campagne électorale de 2006, c'est en ce moment-là qu'on avait doté la ville d'une forte capacité. Donc, depuis 2006, ce groupe, l'extrait-générateur n'est pas correctement utilisé parce que ça fait deux ans, on n'a jamais vu le courant de la semaine à Issiro. Alors,
ça fait deux ans.
Est-ce que l'on considère que Issiro n'est pas concerné? Parce que là, jusque-là, dans les débats, j'entends que l'axe Bakongo, Kinshasa, Katanga, de Hango, alors tous ceux qui sont des part et d'autre de la ligne, ils sont concernés. Par exemple, le cas de Maniema, c'est la Sakima, la Sakima, pratiquement, qui dessert la ville de Kindu en courant. Et tout le temps, il y a des délestages. Bon, on prend, par exemple, les cas de Bunia, ou les Trokimo, la société de la Trokimo, là, qui sont plus courants. Avec plein de délestages aussi. C'est-à-dire que si la SNEL n'est pas en mesure de couvrir toute la République, elle peut bien céder la part de marché à la loi est déjà là, c'est vrai.
Oui, la loi est là. Mais la loi qui.
On a été institutionnalisé.
Oui, selon un avis que nous avons reçu ici, la loi doit encore être
évoluée. De l'autre groupe, de gérer aussi et prendre en charge la distribution du courant. Alors, puisque la SNEL avait le monopole, elle ne peut pas aujourd'hui continuer à se plaindre vraiment, voilà. Parce que ce n'est pas un débat de personnes. Nous parlons de la SNEL. Que ce soit l'actuel comité de gestion, que ce soit l'ancien, leur appartenait de prendre des bonnes mesures, de prendre d'appliquer la meilleure politique, afin que la population ne soit pas dans cette situation. Si par exemple, on ne dit pas de la
situation. Voilà, merci beaucoup, Dieudonné, d'avoir appelé. Nous allons prendre Madame Hortense. Donc, on va d'abord réagir avant de conclure cette émission par rapport à ces dernières réactions.
Oui, en ce qui concerne le monopole dont parle le dernier invité ici, je dirais que c'est un monopole de fait qu'on a eu. Maintenant que le secteur est libéralisé, mais qui viennent, on va se partager parce que vous savez qu'on a la potentialité donc en hydro de 100 000 mégawatts.
Il n'y a pas encore des mesures d'accompagnement.
Des
mesures d'accompagnement de cette loi, donc c'est ce qu'on attend.
Oui.
Vous que les investisseurs arrivent.
Oui, que les investisseurs arrivent. Nous aussi, ce que nous attendons, c'est qu'on nous paye notre dû. Que chacun fasse sa part et qu'on va évaluer dans les jours à venir comment est-ce que nous allons évoluer. Il y a Dieudonné de Issiro qui a dit que c'est depuis 2006 qu'il y a
un groupe électrogène,
qui
est juste après tombé en panne et aujourd'hui ils sont dans le noir.
Aujourd'hui qu'ils sont dans le noir. Je pense qu'en ce qui concerne le groupe et l'électrogène, il n'y a pas que à Issiro, il y en a aussi
à Mweka,
à Kananga, à Idjopa,
à Beni, à Mbandaka et à Nkoro.
Là, je vais rappeler à M. Dieudonné que Mosé avait dit, organisez-vous, qu'on se soude le coude, nous tous, pour pouvoir avancer les choses. L'électricité, nous savons que c'est une denrée rare, on en a tous besoin, et le producteur et l'industriel et tout le monde, moi aussi j'en ai besoin pour vendre, pour que je puisse encore produire davantage et surtout satisfaire les besoins de mes clients, que eux aussi nous soudent les coudes, qu'on voit un peu comment est-ce que nous pouvons travailler ensemble et faire fonctionner les différents groupes électrogènes qui demandent le carburant. Le grand problème, c'est les tarifs. Les tarifs ne couvrent pas le prix de revient. Alors, ce qui fait que si on leur donne même les carburants aujourd'hui, ils ne sauront pas reconstituer le stock, donc des remplacements. Ils ne sauront pas le... Donc, on ne saura pas renouveler le stock. Et on ne saura pas faire tout et les réparations et consorts parce que le tarif est très minime. Donc, le peu, là, qu'ils ont, qu'ils nous le payent et nous allons faire... qui nous aide à les aider, c'est-à-dire à améliorer notre service.
Madame Hortense Roncalais, c'est ça votre nom. Vous avez été notre invité. Nous vous disons merci d'avoir accepté d'intervenir dans Parole aux auditeurs, ce grand magazine de débats citoyens et surtout d'avoir en interactivité échangé avec les auditeurs. Nous disons également merci à Paul Badianyama qui a assuré la mise en onde de ce programme aux côtés de Julie Pesa qui l'a réalisé. Une émission coordonnée et présentée par J.R. Lungembo sous la supervision de Léonard Moulamba. À très bientôt pour une autre production.